Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous. Elle a écrit un roman sur l'autisme inspiré de l'histoire de sa famille. On y va pour les détails avec ma femme d'aujourd'hui.
Mehdi 1, Yasmine, femme d'aujourd'hui.
Habiba Touzani Derissi, bonjour.
Bonjour Lala, bonjour Lala Yasmine.
Merci beaucoup d'être ma femme d'aujourd'hui. Je crois que Lala Habiba.
Tout le plaisir est pour moi. Ça va, on fait aller, alhamdoulilah, shukrulillah.
Alhamdoulilah. Alors Lala Habiba, toi tu es professeure de langue et littérature française à l'école normale supérieure de l'université Sidi Mohamed Ben Abdallah Hafez. C'est bien ça. Et tu es aussi auteur de nombreux ouvrages.
Oui, tout
voilà.
À fait.
Donc en 2021, tu as sorti ton premier roman, Sous l'ombre des peupliers. Et là, tu as sorti ton dernier roman, Jusqu'au dernier souffle. C'est bien ça?
C'est bien ça.
Tout c'est bien fait. Ça. Ok. Alors, à l'ère où tout va très très vite, on se dit que les gens lisent de moins en moins. Pourquoi tu t'es penchée vers l'écriture?
Alors, c'est vrai qu'il y en a qui lisent de moins en moins, mais en tout cas, j'en connais qui aiment la lecture. Et si je peux cibler cette petite catégorie de jeunes et d'adultes qui continuent encore à lire et de leur faire aimer surtout l'amour de la lecture, surtout que par ma fonction de professeur, donc je suis souvent en contact avec mes étudiants qui vont devenir plus tard des professeurs de français. Donc si je cible au moins cette petite catégorie de jeunes, pour moi, c'est déjà ça de gagner. Donc, depuis le départ, de par mon travail, de par ma passion, autour de moi, j'arrive quand même à donner envie aux jeunes, aux adultes, voilà, l'envie de lire et de découvrir l'univers de la littérature et de la vie. Hein.
Alors, Jusqu'au dernier souffle, c'est un roman qui s'inspire d'un vécu très personnel.
Oui.
Alors, avant d'en parler, est-ce que Sous l'ombre des peupliers aussi?
Non. Sous l'ombre des peupliers, moi. Mais c'est vrai qu'il y a toujours une part de nous dans ce qu'on écrit. Hein. Mais je pourrais dire que Jusqu'au dernier souffle est plus inspiré de l'histoire d'une histoire de famille.
D'une histoire de famille, absolument. Oui. C'est l'histoire de ta sœur.
Oui,
voilà. Nada, exactement, que j'ai déjà eu le plaisir et l'honneur de recevoir dans Femme d'aujourd'hui. Justement. Raconte-nous, pour ceux qui ne connaissent pas Neda et son histoire avec son fils, raconte-nous Jusqu'au dernier souffle.
Alors, Jusqu'au dernier souffle est un roman qui se veut un cri de combat d'une maman avant tout. Que, comme je l'ai souvent dit, les parents des enfants autistes, peut-être qu'ils portent plus cet autisme que l'autiste lui-même. Et quand je vois ma sœur, quand je l'ai vue depuis la naissance de son enfant, qui est une source de joie aussi, donc on ne peut pas dire que son fils ne lui a apporté que le poids de l'autisme et de la différence, mais il lui a aussi apporté une grande richesse. Donc de ma part d'écrivaine, j'ai essayé un tout petit peu de rendre compte de cette situation, de sensibiliser les jeunes, toute personne traversant cette vie, de lui dire... Il y a des enfants qui sont différents. Et cette différence n'est pas une tare, au contraire, c'est une richesse. Et j'ai essayé un petit peu de témoigner de cette tendresse que j'ai à l'égard de mon neveu, témoigner de cet amour que j'ai à l'égard de toutes les personnes qui sont différentes. Parce que j'estime que nous sommes tous, d'une manière ou d'une autre, autistes. Nous sommes tous, d'une manière ou d'une autre, différents. Mmh. Donc, on n'a pas le droit de juger sévèrement ces personnes autistes, ou trisomiques, ou dyslexiques, ou souffrant d'un handicap sensoriel ou moteur quelconque.
Alors, justement, est-ce que toi, en tant que tante de ce garçon, de ce jeune homme aujourd'hui, et sœur de sa maman, de Nada, est-ce que tu as déjà assisté à des scènes de stigmatisation de cette famille?
Plusieurs fois, oui. Je suis contente que cet enfant puisse auréoler notre vie. C'est-à-dire, il est là avec nous constamment. Nada, elle fait partie de ces mamans lumineuses, courageuses, qui n'éprouvent aucune honte ni aucune gêne à être avec son fils. Donc, il est là avec nous constamment lors des réunions familiales, lors des fêtes familiales. Il est là. Ses neveux, ses nièces sont toujours là autour de lui. Il l'accepte, il l'aime d'un amour inconditionnel. Donc, c'est vrai que il est là pour à chaque fois nous rappeler qu'il, comme il est beau de souffler, parce qu'il adore souffler sur les bougies en faisant de chaque jour un jour d'anniversaire, un jour de naissance. Et il est là aussi lors de ces moments de crise. Et il y a eu des moments encore plus pénibles lorsqu'il a été hospitalisé plusieurs fois, lorsqu'il a été intubé. Donc on était là constamment avec Nada, même si on ne pourrait jamais porter ce qu'elle porte. Ouais. Mais on a essayé du mieux qu'on peut de lui apporter au moins un certain réconfort. On est là autant que famille, on est là autant que sœur, on est là autant que tante, on est là. On est toutes ces mamans, hein, d'une manière ou d'une autre. Chacune de nous fait de son mieux pour porter ou pour alléger un tout petit peu ce que notre sœur porte lors de cette traversée, lors de ce destin qu'elle porte.
Mais alors, Nada a dû assister à plusieurs fois à des regards, à une incompréhension des gens dans des endroits publics. Ma question, c'était dans ce sens-là. Est-ce que toi aussi, en tant que tante, présente dans la vie de Nada, ta sœur et de ton neveu, est-ce que tu as assisté à des regards négatifs, à des stigmatisations de ce trouble ?
Oui. Oui, oui, oui. Combien de fois ? Combien de fois ? Et je me rappelle mon regard combien de fois, c'est comme si je regardais cette personne qui regarde mon neveu, mais en lui disant, juste avec les yeux, qu'est-ce que tu regardes ? Pourquoi tu regardes aussi longuement ? Pourquoi tu scrutes ? Pourquoi ton regard est inquisiteur ? Il est provocateur ? C'est pas un regard modeste, c'est pas un regard conciliant. On ne cherche ni pitié ni curiosité, on cherche juste l'acceptation. Oui.
Mais ce que tu dis, pardon.
Il y a plein d'enfants qui ressemblent à Théâtre Crime.
Bien sûr, mais ce que tu dis déjà, Habiba, c'est déjà très fort. On ne cherche que l'acceptation. Ça veut dire, à la limite, le droit d'exister comme les autres, comme tout le monde.
Bien sûr, parce qu'on n'a pas choisi comment on n'a pas choisi nos apparences, on n'a pas choisi nos attitudes, on n'a pas choisi de n'être beau ou de n'être moins beau, de n'être difforme ou de n'être en excellente santé avec un excellent aspect physique. Non, mais la vraie beauté, c'est celle qui vient de l'intérieur, c'est la beauté du regard, parce qu'on a beau être beau physiquement, de l'extérieur, mais si on porte en nous une germe de jalousie, d'envie, de supériorité, si on se sent autant supérieur aux autres, là, on a tout perdu. C'est pas ça la vraie beauté.
Alors, on va rentrer un petit peu dans les détails de ce roman, de ce livre. C'est pas un roman. C'est pas un roman, en fait. Si, c'est une biographie.
C'est un roman.
C'est un roman.
C'est un roman. C'est un roman qui est inspiré d'une histoire vraie, mais les faits sont différents. C'est pas puisque mon personnage, il a fini à un moment donné par parler, alors que mon neveu, il est non-verbal, il parle autrement. Et c'est ça qui est aussi intéressant, parce qu'il y a eu l'avant et l'après, il y a un petit peu d'Abdelkrim, mais il y a autre chose, peut-être des autres enfants du monde, des autres enfants qui sont différents. Donc j'ai essayé un petit peu de toucher à toutes ces souches sociale, à tous ces enfants qui sont différents, que ce soit ceux qui parlent ou ceux qui ne parlent pas. L'essentiel, j'ai essayé de montrer à quel point ces enfants sont purs par rapport à notre monde qui ne l'est point. C'est cette affront, c'est cette confrontation entre le beau et le moins beau, entre l'innocent et l'impur, parce qu'il n'y a pas que l'autisme qui a été débattu dans ce roman, il y a aussi la pédophilie, il y a l'exploitation des enfants, il y a la fragilité de ces personnes, il y a le combat de la maman, il y a le départ du père, il y a ces familles qui sont fragmentées, le divorce, une femme divorcée dans une société qui juge. Donc il y a eu d'autres thématiques à part l'autisme dans ce roman-là.
Pourquoi tu as choisi d'écrire ce roman ? Parce que Nada est très, comme on dit, entre guillemets, très, très vocale. Elle en parle beaucoup sur les réseaux sociaux. Elle a, d'ailleurs, c'est incroyable parce qu'au tout début de Femmes d'aujourd'hui, il y a 4 saisons, je l'avais interviewée et j'avais avec moi une voix fragile, une voix endolorie. Et puis, je l'ai reçue il y a quelques mois et je lui ai dit, je lui ai dit, Nada, ta situation n'a pas changé, mais toi, tu es transformée. Elle m'a dit oui. Elle a fait beaucoup de travail sur elle. La première fois que je l'ai interviewée, j'avais l'impression que Abdelkrim prenait toute la place dans la famille. Aujourd'hui, donc des années après, quand je l'ai réinterviewée, j'ai senti que Abdelkrim avait sa place et mais pas toute la place.
Oui, et ça c'est très important. Oui, parce que Nada sur les réseaux, c'est une femme inspirante. Elle est là pour aider les autres. De par mon travail, nous aussi, on avait à l'école normale supérieure une filière justement pour accompagner ces enfants en difficulté avec des besoins spécifiques. Malheureusement, cette filière n'a pas pu aller jusqu'au bout. Il y avait eu 2 promotions d'auxiliaires, j'espère qu'ils sont en train d'exercer dans des circonstances quand même rassurantes et enrichissantes. Et à chaque fois, en fait, une fois que j'ai terminé mon premier roman, automatiquement, on passe à un deuxième. C'est-à-dire, il y a toujours cette source, cette fougue, cette envie de continuer à écrire. Et là, ça avait coïncidé avec l'intubation de Seattle Krim. Et j'étais là, dans un couloir, à accompagner ma sœur, à la regarder de loin, à sentir mon impuissance, à me dire, mais qu'est-ce que je peux faire à part la prendre contre moi, à part prier, à part... Et là, je me suis dit, mais dans la littérature, il y a tellement de héros, qu'on appelle des héros ou des anti-héros, mais j'ai en face de moi 2 grands héros. J'ai mon neveu qui est un héros qui représente justement le miracle de la vie, parce qu'à chaque fois on disait non, il n'est pas viable, il ne peut pas supporter cette fois, il ne peut pas surmonter cette épreuve. Les médecins étaient presque catégoriques. Et la vie, et Nada Erbikbi, justement, à chaque fois, on leur clouait le bec, on leur disait, mais non, cet enfant, il est là, malgré nous. Et je ne pouvais pas avoir un héros, un vrai devant mes yeux, et ne pas en faire aussi le héros de mon roman. Mmh. Avec humilité, avec modestie, avec pudeur, j'essayais de m'introduire dans ce monde que je ne connais pas vraiment. Donc j'ai eu peut-être l'affront, des fois l'indécence, et des fois je me sentais intruse dans son monde. Mais j'ai quand même continué l'aventure. Je me suis dit, oui, je vais y aller, je vais essayer du mieux que je pouvais de parler à sa place, d'essayer au moins de faire part de sa voix aux autres, qu'on puisse le connaître, qu'on puisse le comprendre, qu'on puisse dans des salles d'attente lui céder sa place à ses enfants qui sont différents, dans un bus ne pas avoir ce regard inquisiteur, dans la rue d'accepter ses enfants, d'aimer ses enfants et de se sentir, et c'est comme aussi c'est un message aux mamans de leur dire vous avez de la chance d'avoir des enfants pareils. Parce que ces enfants, peut-être, c'est votre fenêtre vers le paradis. Mmh. Et peut-être que nous, humains, nous sommes vraiment petits. Mais eux, je les sens dans un autre registre. J'ai l'impression que ces enfants sont des anges. C'est pas des humains à 100%. Ils ont une part de lumière en eux. Et ça, j'ai essayé un petit peu de le traduire par la poésie, par une écriture poétique, sensible et trop introspective. Voilà. Mmh.
Alors, pour écrire ce livre, est-ce que tu t'es basée sur ton observation en tant que membre de cette famille, ou bien est-ce que tu as interrogé Nada ?
Pas mal de fois, je l'ai interrogée. Mais en fait, mes questions, j'avais pas besoin de questions parce que j'avais déjà les réponses. Mmh. Je voyais Nada en face de moi. Je ne suis pas quelqu'un d'externe ou quelqu'un de lointain. C'est ma sœur. Et on est une famille soudée. On a toujours grandi sous les ailes de notre maman parce qu'on a grandi orphelin. cette présence paternelle était certes nous manquait, mais maman a essayé de nous combler et nous-mêmes on se comblait mutuellement. Donc Nada est ma sœur, des fois je sens qu'elle est ma mère parce que j'apprends d'elle, des fois je sens que je suis sa petite sœur parce que cette expérience elle l'a fait grandir. Et je l'observais continuellement, je voyais comment mon cousin, comment mon neveu a évolué, comment elle a aussi évolué. Votre remarque de tout à l'heure entre Nada avant et Nada après, moi aussi je l'ai senti, toute ma famille l'a senti. Oui. Et ce travail de coaching que Nada a fait, ce développement personnel, ça nous a inspiré aussi. Nous aussi on se développait à travers Nada, nous aussi on l'écoute, nous aussi on est ses fans, on est des auditrices qui suivons continuellement ce qu'elle fait, toujours avec autant de tendresse, toujours avec autant de curiosité et d'apprentissage. Donc nous apprenons, chacun apprend de l'autre, de sa part et de par son vécu et son expérience.
Alors, je vois sur en tapant justement votre nom et le nom du livre qu'il est déjà épuisé.
Oui. Oui, mais il y a une deuxième, bien sûr, il y a une deuxième édition qui est en cours. Ça ne fait que commencer. L'aventure ne fait que commencer.
Alors justement, épuisé, ça veut dire acheter, ça veut dire lu, ça veut dire toucher. Est-ce que tu t'attendais à, entre guillemets, ce succès?
Non. En fait, je m'y attendais un peu parce que je me suis dit que c'est sûr que souvent dans notre société, on en parle peu. Peut-être que Nada était l'une des premières pionnières qui ont commencé à parler de ce sujet et à montrer leur enfant et à parler de cet enfant comme étant une richesse, comme étant une beauté, comme étant une source de d'épanouissement aussi, pas juste un porte-douleur ou un porte-souffrance. Non, elle a toujours parlé à ses femmes, à ses mamans. Et quand j'en ai parlé, bien sûr, à la Croisée des Chemins, à la maison d'édition, on m'a dit, c'est vrai que votre style fluide, etc., mais il y a aussi la singularité de votre thématique qui a fait en sorte que depuis le départ, ce sujet a intéressé la maison d'édition. Et je crois que beaucoup de mamans, j'ai eu beaucoup de messages de mamans différentes pour me dire, madame, où est-ce qu'on peut avoir votre roman? Quand est-ce que vous passez sur Casa? Quand est-ce que vous passez sur Rabat? Quand est-ce qu'on pourrait avoir le plaisir de vous en parler? Et des fois, lors des rencontres littéraires, beaucoup de femmes m'en parlent comme si j'étais médecin, comme si j'étais neurologue, comme si j'étais pédiatre. On me demandait des statistiques et j'essayais de leur dire, de m'excuser si j'avais pas la réponse scientifique exacte à certaines questions, parce que ma plume est celle d'une romancière, même si, bien sûr, autant que romancier, on devient un petit peu un documentaliste. On cherche à avoir le maximum d'informations, surtout que j'ai aussi mon neveu qui est médecin et qui a soutenu l'année dernière son sujet de thèse sur l'autisme et que j'avais des données qui sont cliniques, mais je n'en parlerai pas avec autant de savoir-faire que lui, qu'un médecin, que lui-même. Donc moi, j'ai
en fait, c'est un sujet qui a touché toute la famille.
Toute la famille.
Incroyable.
Oui, famille. Sa sœur.
Oui, bien sûr. Vas-y, je te laisse.
Non, je parlais juste de la sœur de Siabel Klim, Lina, qui a aussi combattu pour faire médecine. Et ses parents, elle fait de la médecine privée. C'est coûteux et pour eux, c'est aussi un challenge pour leur fille parce qu'elle voulait être là pour soutenir son frère.
En fait, je pense que s'il y a eu autant d'impact sur toute la famille, c'est parce que Nada et son mari étaient seuls. Quand je dis seuls, c'est-à-dire que malheureusement, dans le contexte marocain, ces enfants différents, eh bien, ils n'ont pas forcément de structure de prise en charge.
Tout à fait.
Et donc, du coup, vous avez vu la souffrance, vous avez vu l'implication, vous avez vu l'impact, que ce soit toi, que ce soit justement les autres membres de la fratrie, que ce soit la grande famille. Et voilà, et c'est ça peut-être aussi qui fait que ces parents qui sont demandeurs de ce livre, même si c'est un roman, même si à la fin, toi, tu fais parler le personnage, sont à la recherche d'éléments, en fait, de référence par rapport à l'autisme.
Oui.
Comment on gère un enfant
oui.
autiste alors qu'il n'y a pas de structure, alors que c'est coûteux, alors qu'il n'y a rien, en fait.
Oui, là, Yasmine, tu as tout à fait raison de dire ça, parce que malheureusement, on appelle ce trouble, le trouble des familles riches. C'est eux qui auront peut-être les moyens de pouvoir embaucher ou engager une auxiliaire qui pourrait les aider un petit peu
à s'occuper.
Oui, à s'en occuper, à pouvoir gérer des fois ces stéréotypies, ces crises, ces moments de perte et tout cela. Donc oui, avec ce petit roman, avec cette première aventure littéraire, au Maroc, peut-être qu'on cherche un petit appui, on cherche à travers la littérature, à travers un témoignage, on leur dit, on est avec vous, on sent que vous êtes là, on sent que vous souffrez. Et si j'arrive déjà à cibler les écoles, parce que je compte faire une petite tournée à travers les écoles, à parler aux professeurs. Mmh. Et ça, c'est quelque chose que je fais déjà de par mon statut de formatrice dans une école normale supérieure, où je leur dis, vous allez avoir des enfants différents. Je sais que peut-être vous-même, vous n'avez pas été formé pour accompagner ces enfants différents. Mais tout ce que je cherche, c'est que vous ayez, parce que la meilleure formation, qui n'a même pas besoin de formateur. C'est la formation spirituelle, c'est la formation humaine, que vous puissiez ouvrir votre cœur, vous armer de patience. Dans le monde de l'enseignement, c'est vrai que déjà la gestion de la classe d'enfants qu'on peut soi-disant, entre parenthèses, appeler normaux, est déjà quelque chose, déjà un moment qui n'est pas facile. Qu'en est-il lorsque nous avons des fois des enfants qui sont différents et qu'on est tenu par une charge horaire, qu'on est tenu par un programme quand même à compléter, et on a ces enfants-là. Moi, je leur dis, faites de votre mieux. Essayez de vous montrer quand même ouvert, parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. Est-ce que nous avons une garantie que nos enfants, ou qu'on nos petits-enfants, ou qu'on nos neveux, ou quelqu'un de la famille pourrait avoir un tel enfant? Donc dans la vie, soyez quand même patient, soyez humain, c'est tout ce qu'on vous demande. C'est de l'humanité. C'est d'ouvrir un petit peu votre réservoir de patience, c'est de tolérance et d'écoute et de compassion, pas de pitié. Juste soyez humain. Et si je me dis que vu les générations qui sont passées, vu tous ces élèves que j'ai eus, parce que j'ai commencé l'enseignement depuis quand même 2009, ça fait quand même une bonne vingtaine d'années, si je suis arrivée à faire écouter voilà, ma voix, et si ma sœur de son côté par les réseaux est arrivée à parler de la différence, je crois que c'est déjà ça de gagner. Parce que comme on dit, donc chacun de nous devrait œuvrer dans ce sens, que l'on soit professeur, que l'on soit médecin, que l'on soit architecte, que l'on soit pharmacien, que l'on soit femme au foyer, peu importe, c'est une humanité qui doit nous traverser tous, de part et d'autre.
Habiba Touzani et Delessi, merci infiniment d'avoir été ma femme d'aujourd'hui. Merci à toutes et à tous pour votre confiance. Femme d'aujourd'hui et sa version homme, c'est du lundi au vendredi sur les ondes de Médien et à tout moment, à la demande et en avant-première sur Médien Podcast et les plateformes de podcast habituelles.